Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage, je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Se mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Quelqu'un comme parce que lui il a visiblement la liberté chevillée au corps le Redouane, hein. Cherche à sortir, il y a possibilité. Ça avait été le cas pour Nino, le petit Nino, ça avait été le cas pour plein d'autres, ça avait été le cas pour Christophe, enfin voilà, c'est le cas pour des gens qui sont tous ceux que je viens de citer, condamnés à des peines de mort. C'est simple. Et Redouane, il avait pour... il avait tout cumulé pour 35 ans, ouais. Donc, qu'est-ce que... Évidemment, tu prends des risques, parce que c'est pas... Mis à part ça, c'est pas un truc hyper simple, hein. C'est que tu prends un gros risque, tu prends le risque de mourir en faisant ça. Mais ça vaut le coup. Évidemment, ça vaut le coup, puisque de toute façon, de l'autre côté, tu prends le risque de mourir à l'intérieur. Et c'était la même chose pour Nino, c'était la même chose... Pour Christophe, c'est toujours la même chose pour eux d'ailleurs, et puisqu'ils sont, encore condamnés à des peines, copieuses.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous venez d'entendre Olivier qui parlait de l'évasion de Redouane Faïd dans l'émission du 6 juillet 2018 de L'Envolée.
Cette émission est toujours dispo en intégralité sur le site l'envolée.net. Puisqu'on est dans les hommages, on commence par un grand salut à ce prisonnier d'Épinal qui a réuni des témoignages de co-prisonniers contre l'administration pénitentiaire. Elle ne lui pardonne pas, elle porte plainte contre lui. Elle refuse les paroles collectives, évidemment. On reviendra en long sur cette affaire vendredi, car elle mérite tout notre soutien, toute notre attention, et particulièrement dans cette période.
Et on consacre ce flash du jour à la prison de la Talaudière à Saint-Étienne, avec notamment un témoignage de Nabil, qui est un correspondant de longue date de L'Envolée et dont on vient d'avoir des nouvelles.
Avant ça, sur cette prison de la maison d'arrêt de la Talaudière, le 22 avril dernier, un prisonnier de 90 ans, un vieux monsieur, incarcéré depuis 2014, est mort dans sa cellule de la Talaudière.
Il était malade et donc la justice ne lui a pas accordé le triste droit de mourir en liberté, comme a dit son avocat.
Voilà, dans cette 90 jolie phrase. Ans. Ouais. 90 balais, on ne le laisse pas sortir. Quoi. Merci, la prison qui soigne soi-disant. Ouais. On a un témoignage aussi parvenu juste avant, un témoignage d'un prisonnier qui est sorti juste avant le confinement et juste avant le Covid de la Talaudière, et qui permettra bien d'introduire ce que nous raconte Nabil après. Ce témoignage est paru sur le numéro 0, un site internet qu'on vous invite à aller voir.
Alors, je vais vous le lire. « Je suis sortie du centre pénitentiaire de la Talaudière juste avant le début du confinement. Et c'est clair que les conditions y sont désastreuses. La tôle tombe en ruine et c'est une poubelle géante. La surpopulation carcérale rend tout le monde extrêmement nerveux et empêche de pouvoir faire des démarches pour améliorer le quotidien, avec un remplissage de 300%. Il n'y a pas assez de nourriture, si on peut appeler ça comme ça, pour tout le monde, même le pain est rationné à une baguette par cellule et par jour pour deux ou trois prisonniers. L'eau est imbuvable. Le courant saute trois fois par jour. Les murs sont moisis, le chauffage ne fonctionne pas. Les matons sont débordés, incompétents et feignants. La violence est quotidienne, comme les suicides. C'est grâce au parloir et au courrier que certains tiennent le coup. Sans parloir actuellement, ça doit être un enfer. J'y étais en mandat de dépôt pour avoir manifesté, alors que l'on m'avait retiré ce droit constitutionnel lors d'une précédente condamnation. Mais il y en a aussi beaucoup qui y sont pour défaut de permis, vol de nourriture ou en tant que gilet jaune. Bref, ne les oublions pas et ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres ou aux méchants délinquants. Un jour, ça pourrait être vous.
Force et honneur aux gilets jaunes, aux black blocs, aux mutilés, aux enfermés et aux services de santé. Merci pour ce témoignage qui est vraiment génial.
Ouais. Et ce témoignage fait vraiment écho avec l'interview de Nabil que vous allez écouter. On va la passer en deux fois. Aujourd'hui, il va revenir sur l'ambiance à la Talo avec le Covid, la réalité des sorties, l'absence d'infos, des absences de parloir. Et dans la deuxième partie, il parle de la plainte qu'il avait déposée contre la Talaudière il y a quelques années, justement sur les conditions de détention, sur le fait que cette prison tombe en ruine.
Cette interview, elle a été réalisée, petite info, depuis sa cellule, par ces fameux téléphones qui ont été mis en place dans certaines prisons, évidemment pas partout, quelques temps après le début du confinement.
C'est un peu compliqué, c'est même très compliqué, parce qu'il n'y a que quelques jours où les médecins sont présents. Bien sûr, en fait, la plupart des détenus, ils n'ont pas leurs soins qu'ils devraient avoir.
Encore pire que d'habitude.
D'habitude, en fait, à peu près tous les jours, il y a quand même au moins des consultations médecins. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, en fait, ça va être la sortie du confinement. On a toujours pas, en fait, on sait toujours pas, en fait, si les activités vont reprendre, si le scolaire va reprendre, si la bibliothèque sera ouverte, parce que là, en fait, ils ont même fermé la bibliothèque pendant tout le temps, en fait, du confinement, même si on pouvait entendre dans certaines émissions, comme quoi, en fait, il y avait toujours un accès à la bibliothèque, c'est pas vrai, nous ici, en tout cas, on n'en a pas. Ils ont mis apparemment des cloisons au parloir, en fait, pour la reprise des parloirs. Donc, ils ont mis des espèces de vitres, de plexiglas. Je les ai pas vus, mais on m'a dit ça.
Entre les familles et les prisonniers.
Exactement.
Ouais.
Et les surveillants, ils portent pas de gants. Il y en a la plupart, en fait, ils portent pas de masque. Certains oui, et d'autres non. J'ai un peu l'impression, en fait, que certains surveillants ont rien à foutre de toute manière. C'est pas vraiment une préoccupation de savoir, en fait, si on va tomber malade. Je sais pas si il y a eu des gens, en fait, qui ont eu le Covid ou non, parce que il y a plusieurs bâtiments et comme c'est fait, en fait, on peut pas forcément voir, en fait, tout le monde. Par exemple, si c'est des arrivants qui sont arrivés, on les voit pas, en fait. On peut pas voir, en fait, ceux qui sont dans un quartier qu'on appelle le petit quartier. Et eux, on n'a jamais, en fait, de rapport et de contact avec eux. Moi, je suis dans un bâtiment, en fait, c'est le bâtiment des travailleurs. Au bâtiment des travailleurs, en tout cas, personne n'est tombé malade. Mais j'imagine en fait qu'il y en a eu, mais moi, j'en ai pas entendu parler. Ça s'est pas ébruité, en tout cas.
Dac, ça crée du stress pour les prisonniers ou
Oui, et notamment, en fait, surtout pour les parloirs, quoi. Pour,
ouais.
Parce que les gens, en fait, ils voient plus leurs proches, donc forcément, ça stresse un peu tout le monde.
Mm-hmm.
De ne pas pouvoir, en fait, avoir un contact avec les gens de l'extérieur. Malgré qu'ils nous ont mis, en fait, une cabine téléphonique en cellule, parce que là, ils ont mis, en fait, des cabines dans chaque cellule. Quelques temps après le début du confinement.
Mm-hmm.
Mais les échanges par téléphone, c'est pas les mêmes, en fait, que quand on a les personnes directement devant nous.
Ouais.
C'est pas du tout la même chose. Puis j'imagine bien en fait que de toute manière il y a plein de gens en fait qui font leur petit trafic, tout ça, qu'ils peuvent pas faire. Puis même pour le linge par exemple, sortir ou ramener du linge, bah, c'est pas possible. Donc y a moyen quand même de se le faire laver. Mais les détenus en général ils préfèrent en fait le donner à leur famille plutôt que le donner à la détention. Parce que des fois il est perdu, des fois il est peut-être volé même. Donc, ou déchiré quand il revient, ou alors il est encore sale quand il revient. Et donc voilà, oui, ça pose des conflits. En plus, il y a eu aussi quelques conflits liés aux cantines, parce que pendant le confinement, il n'y avait pas tous les articles disponibles. Notamment en fait en nourriture. Du coup souvent en fait ils nous mettaient rupture de stock. Et il faut savoir en fait qu'ici on peut cantiner que toutes les 3 semaines en fait de la nourriture.
Mmh.
En fait, quand on fait notre dépôt de compte cantine, on attend 3 semaines pour avoir en fait nos cantines. Ce qui fait que quand en fait on attend 3 semaines et qu'on nous dit bah non en fait vous n'avez pas parce qu'il y a une rupture de stock et qu'on sait qu'on doit attendre encore 3 semaines de plus, forcément là ça crée des tensions, ça crée des problématiques avec les surveillants parce que de toute manière on peut parler qu'avec eux enfin, et leur reprocher qu'à eux. Donc oui, il y a eu quelques tensions.
Au tout début, je crois que c'était au tout début du confinement, il y avait dans les médias locaux, ça a parlé d'un mouvement de protestation dans la prison.
Eh ben, en fait, c'est pas vrai.
Ouais.
Il y a eu un mouvement, mais qui n'était pas un mouvement de protestation vis-à-vis en fait du confinement. Il y a eu en fait un mouvement de contestation sur les conditions générales, mais ça. Ça, c'est assez régulier, en fait, à la Talaudière depuis quelques mois, où il y a toujours, en fait, des conflits entre l'administration et des détenus qui refusent de remonter de promenade. Mais il y a un mur, en fait, qui sépare deux courtes promenades. À plusieurs reprises, il a été cassé. Le grillage aussi, en fait, du chemin de ronde a été cassé à plusieurs reprises. Mais ça, ça avait déjà commencé avant, en fait, le confinement. Ce n'était pas lié, en fait, au confinement. C'est que des gens, en fait, il n'y a presque pas de travail, il n'y a pas d'activité. Les cellules, les courtes promenades, elles ont été réduites il y a quelques années en arrière. Elles ont été réduites, donc elles sont beaucoup plus petites. Et forcément, en fait, les détenus, ils aimeraient bien retrouver en fait, leur grande promenade. On avait deux grandes courtes promenades, maintenant on se retrouve avec deux petites courtes promenades. Donc voilà. Et aussi, il y a des surveillants qui jouent le rôle de la provocation tout le temps. Donc ça aussi, ça a favorisé en fait, le fait qu'il y ait des mouvements. Et qu'il n'y a pas assez de transfert en fait pour les centres de détention. Il y a des gens en fait, qui attendent depuis très longtemps, qui attendent depuis 5 ans, qui sont encore en maison d'arrêt, qui n'arrivent toujours pas à accéder en fait en centre de détention, ce qui est un problème quand t'as une longue peine.
Et une petite question. On a parlé, la ministre, elle a parlé de faire sortir plein de gens de prison pendant la crise du Covid. Vous en avez vu sortir, vous, des gens? Beaucoup, un peu?
En fait, les gens qu'on a vu sortir, c'est des gens qui devaient sortir. C'est-à-dire, en fait, que ceux qui devaient pas avoir de RPS, en fait, de remise de peine supplémentaire, ben là, comme par hasard, en fait, on leur les a débloqués et on leur en a donné quand même. C'est-à-dire, en fait, qu'ils remplissaient pas les conditions. Ça veut dire qu'ils allaient ni au scolaire, ils travaillaient, ni ils faisaient aucun effort, de, comme ils aiment bien dire, en fait, de réinsertion. Là, en fait, oui, ils ont pu avoir, en fait, des RPS, mais c'est tout, en fait. Il n'y a pas eu, en fait, plus que ça. Et franchement, ça ne s'est pas ressenti, en fait, en détention. Et, ouais. Là, en fait, il n'y a qu'une semaine, là, depuis une semaine, on a ressenti, en fait, un petit souffle dans la prison et seulement, en fait, dans le bâtiment dans lequel je suis. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens en fait, qui sont partis en transfert à Rouen. Et là, ça a libéré en fait, quelques places en, fait, en cellule. Donc il y a des gens qui se retrouvent tout seuls en cellule. Mais sinon, en vrai, non, il n'y a pas eu en fait, beaucoup de gens en fait, qui ont pu sortir. De toute manière, les aménagements de peine, ils ont été bloqués. Ça fait que pendant tout le confinement, il n'y a pas eu en fait, de gens qui pouvaient faire de demande d'aménagement de peine. Très peu. Et ce très peu, c'est ceux qui avaient déjà demandé bien avant en fait, leur aménagement de peine et qu'ils attendaient en fait, leur réponse. Mais ça reste en fait des gens qui étaient déjà en fin de peine, qu'il leur restait pas grand chose à faire, quelques mois, pas plus. Tout cassé, 3 mois ou 4 mois, il leur restait à faire. Voilà. On a vu des gens rentrer.
Ouais, beaucoup.
Pas mal quand même, ouais. J'ai pas l'impression en fait que le confinement a changé bien grand chose sur les entrées en prison.
Ouais, d'accord.
Pour moi en fait c'est la même chose que d'habitude, il y a toujours autant d'entrées. Ça veut dire après, je sais pas moi, peut-être 15 à 20 personnes en fait par semaine qui doivent rentrer à peu près. Non, j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu beaucoup de gens sortir en tout cas. En tout cas, ceux que je fréquente, les gens en fait, que je vois en fait, depuis longtemps, je ne les vois pas sortir.
Vous avez quelque chose à ajouter?
Non, pas vraiment. Ben, si, que c'est toujours un risque en fait, de parler comme ça en fait, publiquement. Que moi, en fait, sur mes dernières détentions, ben, je l'ai subi de plein fouet en fait, de parler en fait publiquement de ce qui se passait en détention et ça m'a coûté en fait l'isolement, ça m'a coûté en fait beaucoup de mitards, beaucoup de pression en fait de la part des surveillants, tout ça. Là je sais pas en fait si j'aurais des pressions ou non, en vrai j'en ai rien à foutre, mais en fait, je le dis parce qu'en fait, j'aimerais bien en fait, aussi que les gens dehors ils comprennent que les détenus, s'ils parlent pas trop, c'est parce que c'est dangereux pour eux. Que c'est pas en fait, c'est pas un acte anodin, c'est pas. Parce que souvent, j'entends des gens me dire oui, mais ils se plaignent pas beaucoup, ils disent rien, ils osent pas, ceci, cela. Mais en fait, s'ils disent rien, c'est parce qu'en fait aussi, ils ont peur pour eux, pour leur sortie, pour savoir en fait s'ils vont obtenir leurs aménagements. Ils vont pas en fait subir les assauts en fait des administrations pénitentiaires ou des transferts très loin de chez eux. Donc voilà, c'est un truc que je voulais dire quand même.
Ouais, bah c'est pour ça qu'on peut te remercier de nous donner de ces nouvelles envoyées spéciales malgré toi.
Ouais.
Et ouais, à tous ceux qui le font, ouais. Big up déjà, rien que ça, c'est précieux et on sait que c'est un sacré risque.
Mais je tiens à dire aussi aux détenus en fait qui peuvent le faire et qui n'ont pas peur en fait des pressions et tout, qui doivent au maximum parler et pas en fait se laisser faire et doivent agir en fait par tous les moyens qu'ils peuvent en envoyant envoyant des courriers ou en téléphonant des radios ou des journaux ou n'importe quoi, mais en tout cas qui se laisse pas abattre, qui se disent pas ouais tout est fichu, rien faire. C'est non, il y a toujours moyen de faire quelque chose.
Un grand salut et un grand merci à Elsa pour cette interview. Un big up à Nabil.
Bah, suite au prochain épisode. Et un gros, gros, gros big up aux Gilets jaunes qu'on a entendu tout à l'heure et à tous les Gilets jaunes enfermés. C'est l'occasion de le faire. La période est bonne pour ressortir dans la rue.
Force à tous ceux qui nous écoutent. Et il n'y a pas d'arrangement. À demain.
Ciao à toutes. Ciao à tous.